Bonjour, bienvenue sur le podcast de Moodstep. Aujourd'hui, nous recevons Gilles Dufour. Gilles est coach et avec lui, nous allons parler de la compétence coaching du manager. Et avant de commencer, je voulais faire une dédicace à Simplicité. Je crois qu'elle s'appelle Alexandra, nous nous sommes rencontrés dimanche à Pontivy. Et Alexandra écoute tous les podcasts de Moodstep et ça m'a fait très plaisir parce que bien que je vois les statistiques sur iTunes et SoundCloud, rien ne vaut une rencontre dans la vraie vie. Donc je lui fais un coucou spécial aujourd'hui. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur et nous retrouvons Gilles tout de suite. Bonjour Gilles.
Bonjour Johanna.
Alors, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Nous allons parler de compétences coaching et en quoi ça peut être une compétence stratégique pour le manager. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es ?
Alors, ma première partie de carrière elle s'est passée dans la banque d'affaires, où j'ai été d'ailleurs à la fin manager d'une équipe où j'étais basé à Londres, une équipe franco-anglaise. Et depuis 15 ans, 16 ans, je fais du coaching, de la formation et de l'accompagnement de dirigeants et de leurs équipes.
Qu'est-ce qui t'a fait pivoter de l'un à l'autre ?
Une rencontre, comme toujours, ce qui est important dans la vie, c'est une rencontre. Un franco-américain, j'étais aux États-Unis à l'époque, qui se formait au coaching. Et quand on se forme au coaching, on a besoin de cobayes gratuits au début pour s'entraîner. Et il s'est entraîné entre autres sur moi. Et c'est ce qui m'a fait découvrir le coaching et ce qui a fait que quand j'ai voulu quitter la banque d'affaires, j'ai pris un coach. Et j'ai découvert avec ce coach que j'avais envie de me mettre à faire du coaching.
Mais du coup, qu'est-ce qui n'était pas rempli dans ta vie pour que tu changes en fait ? Qu'est-ce que le trading ne t'apportait pas ?
Alors, la banque d'affaires, c'est passionnant parce qu'on travaille avec des gens intelligents dans un milieu très international, on gagne très bien sa vie. Mais il y a un certain nombre d'autres choses, dont le sens, les valeurs qui sont plus en sourdine. Et je crois que l'appel de la crise de la quarantaine fait que au bout de 10 ans, on sait qu'on ne peut pas vieillir vieillir dans la banque d'affaires, il y a un vrai choix de vie auquel on n'est pas forcément envie d'être confronté. Bonne crise de la quarantaine, je me suis posé un certain nombre de questions, dont celle du sens de ma vie. Et j'ai choisi de complètement changer de vie professionnelle.
Et aujourd'hui, donc, tu accompagnes des managers, des dirigeants, c'est ça ?
Exactement.
J'ai vu donc ton parcours, tu as un nombre de formations assez impressionnantes.
Oui, je crois que c'est une de mes caractéristiques, c'est une curiosité sans faille. Et je crois que le coaching, c'est un tout petit peu une formation initiale. Mais à l'époque, d'ailleurs, quand j'ai démarré en 99, des formations qui existaient, il y en avait très peu et elles étaient très courtes. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est la formation continue. Et d'autant plus que quand on est coach, on est confronté à des problématiques vis-à-vis de ses clients. Et du coup, on a envie, besoin, et au fur et à mesure de ses rencontres, de se former plus à certains outils que d'autres. Et mon choix particulier fut de ne pas me spécialiser dans une école où il y a un outil, mais au contraire, tous les 2-3 ans, d'aller découvrir de nouveaux outils.
Parce qu'en fait, quand j'ai vu ton parcours et que je l'ai mis en parallèle avec le sujet, la compétence coaching, une compétence stratégique pour le manager, je me suis dit, comment... Et ce qui serait bien, c'est qu'on définisse aussi le coaching et ce que tu entends par coaching pour le manager, parce que c'est quand on se plonge là-dedans et quand on voit toutes les formations que tu as faites, on se rend bien compte que c'est l'affaire d'une vie, en fait, de se connaître, de maîtriser un peu toutes ces disciplines de la fibre humaine. Comment, quand on est manager et qu'on a une équipe, un boulot, comment on peut devenir une forme de coach, puisque ça demande autant de compétences ?
Alors, la compétence coaching pour un coach professionnel et la compétence coaching pour un manager ou un dirigeant, ce n'est pas tout à fait la même profondeur ou la même intensité. Puisque la compétence coaching pour un coach professionnel, c'est, 60-70% de sa compétence, alors que pour un manager ou un dirigeant, c'est 10, 20 ou 30% de ses compétences et de son temps, de management. Donc, les compétences ne sont pas exactement les mêmes. Pour autant, comme les managers le savent, quand vous êtes promu manager à 25, 30 ans, 35, suivant vos parcours, vous apprenez tous les jours puisque chaque cas, chaque équipe, chaque cas particulier va vous faire grandir. Certaines personnes sont plus faciles à manager que d'autres en fonction de qui vous êtes. Et de toute façon, c'est un projet de vie, oui, de devenir un manager ou d'être un manager et de manager. En plus, quand vous passez à manager des managers, c'est carrément le cran du dessus.
Qu'est-ce que tu mènes en la compétence coaching que ce manager doit développer?
Alors, le mot coaching est un mot à la mode, donc c'est un peu un mot qui couvre beaucoup de sous-compétences. Moi, je dirais que dans ces sous-compétences, il y a l'intelligence relationnelle, il y a l'intelligence émotionnelle, il y a la capacité à savoir faire des feedbacks. Je dirais que ça regroupe un certain nombre de compétences qui, suivant son job, sa posture, son métier, son environnement, vont être plus ou moins importantes.
Comment on détermine quelle voie choisir? Il y a tellement d'outils, il y a tellement de façons d'aborder tout ça. Voilà, comment on sait en fonction de qui on est, de quelle équipe on a, du milieu dans lequel on agit, comment on sait
Ah
comment
bah pour
développer cette compétence, quoi?
Vu la complexité du choix, le meilleur critère pour moi, c'est l'instinct, c'est l'intuition. Qu'après, on va rationaliser ou on va valider en rationalisant pour voir si effectivement, en réfléchissant, elle a du sens. Mais la première chose, c'est que vous sentez bien qu'est-ce qui fonctionne avec vos équipes, quel est votre style de management, et après, qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir progresser. Donc, vous avez le feedback de vos collaborateurs, de vos pairs, de votre manager, de vos RH. Vous l'aurez éventuellement via des 360, des 180 degrés, mais vous l'aurez aussi dans la vie de vos amis, de vos conjoints, de vos enfants, de vos ados. Voilà. Les feedbacks, on en a toute la journée.
Même aujourd'hui, je ne sais pas quel constat tu fais en entreprise. Est-ce que tu penses que les managers sont conscients de la richesse de ce que pourrait leur apporter cette compétence coaching?
Oui, la plupart des entreprises ont fait le choix depuis une dizaine d'années, hein, de former les managers au manager coach. En particulier dans les très grandes entreprises, peut-être c'est peut-être un peu plus récent dans les PME et TPE, mais quoique, c'est pas sûr. Mais oui, alors après, je dirais qu'il y a les entreprises qui se divisent un peu en deux. Il y a celles qui ont fait le choix de structurellement ou de stratégiquement former leur manager au manager coach et qui incitent à l'utiliser dans la relation managériale. Et puis il y a d'autres entreprises, hein, et j'en ai dans mes clients, qui ont décidé au contraire de sous-traiter ou de outsourcer la compétence coaching, et dans lequel on demande très peu aux managers de coacher ses équipes, on fait appel plus facilement à des coachs extérieurs ou à des coachs internes dans certaines entreprises pour le faire.
Si on fait appel à toi, comment ça se passe?
Bah, la première chose, c'est d'abord la rencontre entre le futur coaché et le coach. En général, il rencontre un ou deux coachs, parfois trois, donc il a parfois le choix, même relativement souvent. Et l'idée, bah, c'est à l'issue d'un premier entretien, soit choisir son coach, soit si le coach lui est fortement ou légèrement suggéré, voir si ça le fait ou pas. On a toujours un droit de veto à l'issue du premier entretien, le coaché comme le coach, pour savoir si oui ou non on a envie d'avancer ensemble. Après, peut-être la deuxième étape, c'est que une fois que le coaché a choisi son coach, en général, il y a une tripartite ou une quadripartite, c'est-à-dire que les objectifs sont formalisés entre le coach et le coaché, mais validés par le RH et ou par le manager du coaché. Ce qui fait qu'il y a une écriture des objectifs avec des indicateurs de succès du coaching qui sont faits pendant cet entretien et qui seront après la feuille de route pendant tout le coaching et qui seront à l'issue du coaching évalués toujours dans cet entretien tri ou quadripartite entre le coach, le coaché, le RH et le manager. Donc c'est un processus qui est très structuré.
En fait, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que pour développer ta compétence coaching, tu te fais coacher, en fait.
Alors, c'est une des manières. Certaines personnes, effectivement, développent leurs compétences coaching en se faisant coacher par un coach extérieur ou un coach interne. Après, il y a aussi le moyen formation, où il y a beaucoup aujourd'hui de services formation d'entreprise qui offrent des formations autour du manager coach.
Parce que une fois que tu as été coaché ou que tu as fait des formations, quelque part tu t'occupes de ta propre structure. Comment ensuite tu deviens un manager coach?
Alors, bah, je dirais que le manager coach, c'est un peu comme tout manager en fait forcément un petit peu sans le savoir au début. C'est-à-dire que ce qu'on appelle coaching, hein, ça vient, je le rappelle, hein, ça vient de Socrate, de la maïeutique. C'est l'art de faire accoucher la personne en face de soi, c'est-à-dire de ne pas lui donner des conseils ou des réponses à ses questions, juste de l'aider à se poser les bonnes questions et à trouver les bonnes réponses. Et tout manager fait ça plus ou moins naturellement, quoi qu'il arrive. Donc, le manager coach, celui qui est formé ou celui qui a été coaché, va juste avoir quelques outils ou être plus conscient du processus pour aider son coaché à arriver à sa propre solution.
Est-ce que tout le monde, tous les managers, en fait, sont aptes à devenir ce manager coach?
Je dirais oui, mais avec une gradation. Il y en a pour qui c'est très naturel et qui le font déjà et qui ont même probablement peu ou pas besoin de formation ou peut-être juste les aider à structurer cela. Pour d'autres, ça sera plus compliqué. C'est une question de goût personnel, c'est une question d'appétence pour l'être humain, pour la compréhension de l'autre. C'est une question d'environnement, de temps, de beaucoup de choses. Ouais.
Et en quoi pour toi c'est stratégique? Pourquoi un manager qui ne serait que focalisé sur la vision de l'entreprise, les objectifs, la stratégie, serait moins compétent, on pourrait dire, ou moins efficace qu'un manager coach?
Alors, un, ce n'est pas forcément stratégique dans tous les business, dans toutes les entreprises. Hein. Je ne voudrais pas être trop radical là-dessus. Je pense que ça l'est plus particulièrement dans les entreprises ou dans les business qui sont en complète transformation. Quand vous avez à écrire une feuille de route et que la façon dont vous fonctionniez auparavant n'est plus la nouvelle façon dont vous voulez fonctionner, si vous managez des gens à forte valeur ajoutée, avec des forts égos, avec des vraies ambitions, c'est probablement plus important et plus stratégique que si vous managez une équipe qui fonctionne de façon classique avec des experts depuis fort longtemps dans un métier extrêmement stable. Donc je dirais que c'est plus stratégique dans certains business ou dans certains moments. Et pour moi, les moments les plus importants sont les périodes de transformation d'entreprise.
Concrètement, ça se manifeste comment cette compétence coaching?
Alors, ce que j'entends dans l'entreprise hein, ou de ce que je vois de mes clients, c'est souvent une formalisation, c'est-à-dire le coach, le manager et son manager décident entre eux de formaliser un espace-temps dans leur agenda, par exemple une heure et demie une semaine sur deux ou une heure et demie une fois par mois, dans lequel le manager se pose non pas en posture de manager, mais se pose en posture de coach, et dans lequel il demande à son coaché d'arriver avec une problématique complexe, quelque chose où voilà, il n'y a pas de solution simple, ou probablement même son manager n'a pas de solution simple, et dans lequel le manager va se poser en questionnement maïotique, c'est-à-dire c'est quoi la question, comment tu vas t'y prendre, ça serait quoi par exemple si tu devais complètement échouer sur cette projet, comment tu t'y prendrais, avec des questions paradoxales, voilà, plein de techniques particulières issues du monde du coaching. Et ça, c'est ce que je vois, et un certain nombre de managers qui ont mis ça en place sont très contents d'avoir cet espace au-dessus d'eux avec une relation un peu différente avec leur manager. Mais ça n'est pas possible par tout le monde, hein, ni avec tout le monde.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ça demande une capacité de relation entre son manager et son manager, de savoir faire la part des choses entre à quel moment je suis manager et à quel moment je suis coach. Et ça, c'est pas tout le monde ne sait pas faire ou tout le monde ne veut pas faire. Et ça demande une disponibilité en temps. Le coaching a un inconvénient, c'est que ça prend un peu de temps. Parfois, de donner la réponse à la personne, ça prend 30 secondes. Sauf que la personne ne va pas développer cette compétence si vous lui donnez la solution directement. Donc, ça demande un certain nombre d'éléments particuliers comme le temps, une maturité et un niveau de relation et de confiance entre les deux qui soit suffisamment fort.
Mais du coup, quel est l'intérêt que ce soit le manager qui le fasse? Pourquoi ne pas faire appel tout simplement à un coach?
Un, c'est moins cher, hein, puisque le manager est
pour ça. Je crois que ça a parlé, ça.
Il y a quand même une direction de coût. Et puis surtout, le manager, il a un avantage et un inconvénient. Il a un avantage, c'est qu'il fait partie du système. Donc, le coaché ou le manager n'a pas besoin de lui rappeler qui est qui fait quoi, qui est en charge de quoi. Le manager, a priori, sait tout ça. Alors qu'un coach, il faut passer au moins une heure à lui présenter le cadre, l'environnement, qui est quoi, voire même créer une relation entre le coach et le coaché. Avec le manager, la relation est là, on peut aller direct sur le problématique complexe et enclencher assez vite dessus. Donc c'est très efficace quand le manager a cette compétence-là. Et c'est moins cher puisqu'il n'y a pas d'argent à sortir pour l'entreprise, c'est payé par l'entreprise dans le cadre contractuel classique de l'entreprise.
Ouais, si on fait abstraction de la formation du manager, et puis il y a aussi une notion de temps, c'est-à-dire que si aujourd'hui je m'engage, voilà, j'ai une entreprise, je m'engage dans ce processus, entre le temps où je décide et le temps où mes managers vont vraiment maîtriser ces outils, par exemple, d'entretien, ça prend du temps quand même.
Exactement, mais ça c'est aussi si vous voulez développer une culture coaching dans l'entreprise, et pas mal d'études sont en train de montrer que les entreprises qui ont une culture coaching sont plus performantes que celles qui ne l'ont pas, cette culture coaching, elle va se faire par les divers moyens que sont le management, la formation et les coachs extérieurs. Si vous faites juste intervenir quelques coachs extérieurs, votre capacité à faire changer la culture d'entreprise et à introduire une valeur de coaching et de transformation va être plus lente que si vous agissez à plusieurs niveaux. Donc ma recommandation, et c'est ce que je fais avec la plupart de mes clients, c'est d'intervenir via les différents canaux, ce qui permet d'augmenter ce qui permet de mettre en valeur cette valeur coaching, cette valeur transformation, cette valeur intelligence relationnelle, intelligence émotionnelle, réellement dans l'entreprise à plein niveau.
Ouais, donc c'est
Et
un
idéal.
changement de culture, quoi.
Voilà, c'est un changement de culture, et d'autant plus si vous arrivez à avoir une approche différenciée au niveau collaborateur, manager, manager de manager, puis dirigeant.
Donc c'est souvent quelque chose qui est insufflé par les dirigeants d'une entreprise ou
Pas forcément.
ça peut venir d'une seule équipe, d'une seule cellule de l'entreprise.
Ça vient plutôt souvent d'un département ou d'une cellule, parfois d'un dirigeant qui aime bien et qui va le déployer dans ses équipes. C'est moi ce que j'aime à dire, et je suis très systémicien pour ça, c'est que le changement il vient de là où les gens ont le plus envie que ça change. Donc ça viendra de voilà, en particulier d'acteurs dynamiques qui ont envie, qui croient à ça. Après, il y a des endroits entreprises où les gens ne croient pas au coaching et c'est OK. Et il y a des endroits où, dans une même entreprise où les gens vont y croire et vont le mettre en œuvre. Et puis après, les résultats parleront pour eux.
Il y a un autre aspect de ton profil qui me semble très intéressant, c'est le corps et l'esprit. Tu es un grand sportif, je crois savoir.
Bah, je fais beaucoup de yoga et d'acro-yoga, oui, je suis même professeur diplômé certifié de yoga et d'acro-yoga, donc j'aime beaucoup ça.
Quel lien tu fais entre la performance, je veux dire, au travail et le corps? Parce que tu as fait aussi beaucoup d'escalade, je crois, ou d'alpinisme.
Escalade, alpinisme, boxe.
Qu'est-ce que ça t'a appris, toutes ces activités, tes activités actuelles d'acro-yoga, notamment sur la performance, sur la gestion de soi-même, je sais
Il y
pas.
a des choses communes et il y a des choses qui ne le sont pas. Donc, je vais surtout dire ce qui est commun. Ce qui est commun, c'est déjà la gestion dans la durée. Le management, l'important, ce n'est pas de réussir 3 mois. L'important, c'est de réussir les 5 ans, 10 ans, 20 ans où vous allez être manager. C'est de réussir dans la durée. Et il y a beaucoup de sports d'endurance, comme l'alpinisme, comme une certaine partie de l'escalade et comme peut l'être l'acro-yoga aussi. Vous apprenez à vous connaître, à vous mesurer, à identifier vos peurs, à voir comment vous les dépassez. Et tout ça, ça va avoir une influence après dans votre façon d'être, dans votre posture par rapport à votre équipe. Ça, c'est une première porte d'entrée. Deuxième porte d'entrée, c'est j'accompagne aussi beaucoup mes clients sur leur impact. Avoir un impact, c'est aussi utiliser son corps, c'est pas d'utiliser que son mental. On peut avoir un impact uniquement par son mental si vous êtes très très intelligent et brillant pour le communiquer. Mais si vous êtes, entre guillemets, juste intelligent ou juste, voilà, ou juste bon communicant, le corps va vous apporter une valeur forte pour vous permettre d'augmenter l'impact que vous pouvez avoir dans votre équipe ou auprès des personnes qui vous écoutent. Et la posture, les épaules, la voix, le regard, le fait de se tenir droit, les choses comme ça, vont contribuer à augmenter votre impact et donc votre influence sur les gens sur lesquels vous souhaitez avoir de l'influence.
Je me redresse là sur ma chaise, automatiquement. Là. Donc, je serais curieuse de voir une de tes séances de coaching. Donc, tu joues autant avec l'esprit que le corps, c'est-à-dire que dans une séance de coaching, tu vas travailler la posture de quelqu'un?
Exactement. Je filme même très souvent, que ce soit en formation ou en coaching, je les filme même avec un iPad pour qu'ils se rendent compte de l'impact que l'on a sur les autres. Et très souvent, on ne se rend pas compte de son impact, qui vont depuis ses tics nerveux, depuis ses gestes, ses regards, ses mouches sur le visage, des choses comme ça, ses signaux d'ouverture ou pas. Les gens vont interpréter quelque chose en vous voyant. Donc très souvent, je les fais se filmer et après, je les fais se regarder en coupant le son. Comme ça les perturbe. Ils disent, mais attends, non, bah oui, mais c'est juste qu'est-ce que tu te dis en voyant cette personne sans même entendre ce qu'elle dit. Et comme tout le monde sait qu'on croit plus ce qu'on voit que ce qu'on entend, ça aide les personnes à travailler leur non-verbal, en particulier leur communication non-verbale.
Ça, tu le fais en groupe. Donc, toi, tu agis en individuel et en groupe.
Exactement. Oui. Moi, je fais de la formation, du coaching. Je conçois des dispositifs de transformation pour dirigeants et leurs équipes à base de coaching, expérience et formation.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, dont on n'aura pas parlé, qui te semble important?
Ouais, je dirais que c'est aussi le lien avec le bonheur. c'est quand même quelque chose qui te
J'ai
porte, d'après ce que j'ai
bonheur
compris.
Sur le front, quoi.
Tu as l'étiquette et moi aussi je l'ai.
L'étiquette bonheur, j'essaye de l'enlever, hein, je t'assure. Mais...
non, mais je t'encourage à ne pas l'enlever complètement et à l'intégrer. Je pense que, en tout cas, dans le coaching, c'est aussi une partie importante du coaching. Tu sais, on est d'autant plus performant qu'on est heureux de faire ce que l'on fait. Et l'on peut d'autant plus apprendre de nouvelles compétences qu'on est heureux de les apprendre. Donc, je crois que le bonheur fait partie aussi d'un espace coaching entre le coach et le coaché, d'un espace en plus qui n'est pas interdit de partager entre un manager et un managé. Donc, le fait de savoir si ça va bien, si on est content, si on a suffisamment de son intérêt dans son job actuel, s'il y a suffisamment de challenge, si son taux de stress il est OK, il est juste dans le facteur positif, mais pas dans le négatif, vont faire partie d'un espace de libre parole qui peut aussi être plus facile à mettre dans un espace coaching entre le manager et le manager que dans un espace purement business, manager-manager. Donc je crois que c'est quelque chose d'important de garder en tête et d'intégrer dans ces espaces qu'on les appelle coaching ou qu'on les appelle management.
Ouais, j'ai vu sur ton site que le bonheur, d'ailleurs je sais plus, c'est pas dans le titre de ton livre, c'est
Dans la signature de mon mail, j'ai dit que je suis un superviseur du bonheur et de la performance.
Ah voilà,
Présente
j'avais
comme
vu.
ça dans mon mail, oui.
Parce que j'ai
Sur ma
j'ai
carte
des
de
rayons laser dans les yeux. Le mot bonheur, je peux le voir à 3 km. C'est une déformation professionnelle, c'est horrible, ça me hante.
Ouais, ça fait
Juste
que tu prends tout à ton honneur.
ce qui serait chouette, c'est aussi de mentionner. Tu as écrit un livre 10 cas de coaching managériel. Est-ce que tu pourrais juste nous dire un peu de quoi traite ton livre?
Oui, l'idée, c'était de reprendre des 15 années d'expérience où je fais du coaching individuel ou collectif, de prendre quelques cas emblématiques de managers que j'ai coachés en présentant différents outils utilisés et en mettant ces outils en les, entre guillemets, simplifiant un petit peu pour qu'ils soient à la disposition de tout le monde. Donc, que vous soyez un jeune coach, un RH, un manager, ce sont des outils, certains très anciens, comme l'analyse transactionnelle, d'autres plus récents, comme le dialogue intérieur, qui peuvent permettre de répondre à des problématiques différentes et qui peuvent après vous donner envie d'aller vous former pour aller plus loin sur cette technique spécifique. Donc c'est vraiment, ça se lit comme un peu comme une histoire, on rentre dans l'intimité entre un coach et un coaché.
D'accord. Bon, c'est chez Duno, c'est ça?
C'est chez Duno, oui, et c'est
Ok.
sorti le 14 septembre et vous le trouvez en papier comme en numérique sur Amazon et à la Fnac.
Et toutes les bonnes
Et dans
librairies.
toutes les bonnes librairies en France.
Commandez-la chez votre libraire. Commandez-le chez votre libraire près de chez vous.
Je suis allé vérifier dans le libraire en bas de chez moi, il en avait en stock. Donc,
c'est vrai?
Je
Ah bah
confirme.
c'est génial.
Ouais, je suis allé vérifier, oui.
Ah bravo.
Bon,
Bon,
entre
bah
nous,
alors.
le libraire en bas de chez moi, c'est la Fnac Léal, hein, mais.
Oh le tricheur. Moi qui essayais de promouvoir les petits libraires de France, voilà, on se retrouve à la Fnac Léal. Alors, qu'est-ce que j'ai traîné dans cette Fnac? Si tu es d'accord, je te propose qu'on enchaîne avec le questionnaire, comme à
Avec
toutes les
plaisir, j'espère.
interviews. Avec la toute première question qui est, en fait, j'aimerais un cas concret ou une histoire concrète d'une erreur ou d'un échec que tu aurais eu dans ta vie et qui t'a beaucoup appris.
Oui, j'en dirais que c'est une erreur que j'ai faite deux fois. Normalement, on dit qu'il ne faut jamais refaire deux fois la même erreur. Mais deux fois, j'étais salarié alors que j'étais salarié dans ma vie. Je suis allé voir mon boss pour lui dire sur lequel je n'étais pas content de son mode de management, de choses qu'il ne m'avait pas dit ou autre. Et deux fois, j'ai été licencié à cause de ça. Ils ont pris un prétexte et ils ont voulu me virer. Et en fait, les deux fois, ça a été la chance de ma vie, avec du recul, hein, pas sur le coup, puisque une fois, j'ai rebondi, je suis enfin devenu quelqu'un de relativement politique pour comprendre dans l'entreprise les enjeux et entre autres la relation avec son boss. Et le deuxième, c'est ce qui m'a poussé à créer mon entreprise. Voilà, je voulais être entrepreneur. J'avais en tant que salarié, ça marchait assez bien, mais voilà, j'avais envie d'être entrepreneur et c'est ce qui m'a poussé à sauter le pas et à devenir entrepreneur.
Oui, mais en gros, ce que tu dis, faites des échecs, ça va vous ouvrir des nouvelles portes, quoi.
Bah, de toute façon, vous n'avez pas le choix que de faire des échecs. Donc, assumez vos échecs. Si vous n'en avez pas, c'est inquiétant. Ça veut dire que vous ne prenez pas assez de risques. Si vous en avez trop, réduisez un peu les risques. Et après, oui, transformez ce qu'on peut appeler échec en une réussite. C'est-à-dire, apprenez quelque chose de votre échec.
Tu t'as bien dit que tu avais fait deux fois le même, tu avais commis deux fois la même faute, on va dire. Et ça, t'as changé ton comportement par rapport à ça, par exemple, la façon de. Bon, alors, bien sûr, tu as créé ta société, donc t'es plus vraiment confronté à ça, mais tu as quand même des clients. La façon de d'amener une problématique à son supérieur, est-ce que ça t'a fait comprendre des choses là-dessus ou pas?
Bien sûr, c'est déjà, j'aide mes clients à ne pas faire les erreurs que j'ai faites, c'est un coup classique du coach. Ou si jamais ils le font, à la rattraper derrière ou à récupérer ou à l'assumer en fonction. Voilà. Et en même temps, si jamais l'erreur qu'ils font a des conséquences importantes pour eux, je les aide aussi à assumer et à se dire que dans 2 ans ou dans 1 an, ils se diront peut-être que c'est la meilleure chose qui leur soit arrivée. Et je peux vous dire, quelques années après, j'en ai certains qui m'envoient un mail pour me dire, c'est vrai, j'y croyais pas à l'époque, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée.
Ok, deuxième question. Y a-t-il une technique ou un outil qui t'a fait particulièrement avancer dans ta vie personnelle ou professionnelle?
Je dirais que technique de prise de parole. Je crois que ce qui m'a fait le plus avancer, c'était un travail avec un coach qui me filmait à la caméra. Et c'est horrible de voir au début l'image que l'on donne de soi en vidéo. C'est très difficile. Et en même temps, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de progresser, de continuer à progresser et d'accompagner mes clients là-dedans. J'ai fait cet effort il y a 10 années et ils commencent à payer. Mais c'est un peu long, hein.
Ouais, c'est étonnant, je m'attendais pas à cet outil vu la pléthore de formations que tu as fait. C'est parce que en
Bon, il y en
fait,
a plein, hein, il y en a plein, j'ai choisi
ouais,
celle qui m'est
mais
venue.
la prise de parole en public te fait découvrir réellement des choses sur toi.
Oui. Elle apprend d'abord, à aimer l'image que l'on renvoie de soi, ce qui est très difficile en vidéo, ce qui est déjà la première chose. Et apprendre à s'aimer soi, ça passe aussi par apprendre à aimer l'image que l'on renvoie, que ce soit son visage, ses tics, sa voix, ses hésitations, ses mots barbelés. Voilà. Donc, oui.
En quoi tu t'aimes plus c'est-à-dire que c'est à force de te voir en vidéo que tu t'aimes plus, mais.
Un, c'est en progressant un peu, de voir son progrès en vidéo est quelque chose qui donne confiance en soi. Et puis deux, il y a aussi, on prend l'habitude, comme avec son conjoint, avec, je sais pas, on commence à prendre l'habitude de se voir et au bout d'un moment, en faisant un travail un peu sur soi, il y a un espèce de plaisir ou de ne plus de déplaisir à voir la personne que l'on est et permet de trouver comment donner de l'impact. Voilà. Donc oui, je trouve qu'il y a une forme de plaisir qui arrive au bout d'un certain moment. C'est ce que j'appelle le saint narcissisme.
Le Saint, c'est la Toussaint, donc ça
C'est
tombe
la
bien.
Toussaint.
On enregistre à la Toussaint, donc c'est très bien. Ok, question suivante. Quelle est, selon toi, la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Alors, c'est une question piège parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense que ça dépend vraiment de ses stades de développement. Peut-être celle que je mettrai en avant aujourd'hui, c'est la capacité à se remettre en cause. Dans ce monde qui bouge, dans ce monde complexe, dans ce monde qui se digitalise, je crois qu'aujourd'hui, la capacité à ne pas avoir trop de certitudes, et à savoir se remettre en cause devient de plus en plus une compétence clé.
Tant est que ça nous met pas par terre, quoi.
Voilà. Mais si on est par terre, comment rebondir à ce moment-là?
toujours. Ensuite, est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller à la lecture?
Alors, le livre qui me porte depuis quelques années, c'est le livre de Alejandro Jodorowsky, qui est Danse avec la réalité, qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, que j'ai découvert il y a 2-3 ans, 3-4 ans. Il y a un film qui est sorti, hein, depuis, qui est quelqu'un qui a eu une histoire de vie compliquée, très compliquée, et qui a eu plusieurs vies déjà dans cette vie, et qui vieillit manifestement magnifiquement bien, et qui est en train de réaliser de très beaux films.
On dirait qu'il n'a pas de barrière, Jodorowsky. C'est qu'il tente tout, qu'il essaye tout, que.
Il se réinvente en permanence. Il se réinvente en permanence. Et il a quitté le Chili comme ça. Il n'est jamais revenu. Il est parti il a marché pendant un moment dans la conception de scénarios pour BD. Après, il est parti maintenant dans la réalisation de films. Il a plus de 80. Après, elle était on va dire,
Tarologue.
coach psychotarologue, je ne sais pas quoi. Voilà, il a vraiment, il s'est réinventé et je pense qu'il s'est appliqué à lui-même beaucoup de choses qu'il a recommandées. Et sur le storytelling, comme c'est quelqu'un qui vient du théâtre, hein, qui vient de la mise en scène, je trouve sur la capacité à se raconter des histoires qui soient réussissantes pour soi, j'ai trouvé très fort. Et le mot d'ailleurs danse avec, enfin le titre de son livre, Danse avec la réalité, annonce assez bien le programme.
Donc je mettrai le titre du livre dans la description de ce podcast, ainsi que la citation. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire?
Alors, j'en ai plusieurs et celle que je vais choisir là, c'est celle de Sénèque. Il n'est point de vent favorable à celui qui ne sait où aller. Justement, je parlais avec aujourd'hui quelqu'un pendant le déjeuner. Ce qui est important, c'est de remplir sa machine à rêves. Et c'est en ayant des rêves qu'on arrive à avoir après le courage ou la curiosité ou l'envie de se réinventer. Et c'est important de laisser la place dans son agenda pour alimenter ses rêves personnels comme professionnels. Et une fois qu'on a ses rêves, après, on va pouvoir avoir un cap et pouvoir avancer au gré des opportunités ou au gré des possibilités.
Ça me parle bien parce que je vis près de l'océan, je fais de la voile quand je peux. Et c'est vrai que voilà, pour naviguer, il faut savoir où on va, sinon on peut pas utiliser le vent en fait.
Exactement. On a des marées contraires, on a des marées avec soi, on a des vents, on a un bateau qui est ce qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. C'est une bonne métaphore, oui, je trouve que c'est une assez bonne métaphore de la vie.
Eh bien, on arrive au bout de cette interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Gilles, si on veut te contacter?
Donc, plusieurs points d'entrée. Donc, si c'est professionnellement, bon, via ma société, c'est bienlead.com. Si c'est personnellement pour du coaching, supervision ou chatter, c'est sur gildufour.fr. Sinon, sur le livre, vous avez plus de détails sur le livre d4coaching.com. Et sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, LinkedIn, Twitter. Voilà, sur tous les bons réseaux sociaux, vous me trouverez. Et via Déo.
Eh bien, je te remercie pour cet entretien. On ne se connaissait pas vraiment, donc c'est chouette. Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite beaucoup de réussite et puis que tu vendes plein, plein de bouquins.
Merci à toi, merci à Jana. Oui, ça a été un plaisir de se rencontrer, en particulier lors de ce podcast. Et je te souhaite de continuer ces entretiens et d'y intégrer le bonheur dans l'espace managérial, puisqu'il y a trop de gens aujourd'hui qui souffrent au boulot et qui méritent d'être heureux et de réussir.
Ouais, on va s'y atteler tous là.
Exactement, attends tous. Merci à toi.
Merci. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez des questions particulières, des difficultés que vous rencontrez dans le cadre de votre travail et qui ont une relation avec le savoir-être au travail, la connaissance de soi, envoyez-moi un message via le formulaire de contact du site moodstep.com et je me ferai un plaisir de trouver quelqu'un qui pourra répondre à cette question et on fera un épisode sur le sujet, si bien sûr il m'inspire. Mais beaucoup de choses m'inspirent, donc tentez votre chance. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve dans 7 jours pour un nouveau podcast. Bonne semaine.